du mardi 13h au samedi, et c'est Métro République ou Fille du Calvaire. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle d'Aragon et d'Alain Ruscio.
Celle d'Aragon est faite.
Et d'Alain Ruscio, etc. La semaine prochaine, on va recevoir Ilio Chailly et Virginie Di Ricci pour le surréalisme et la fin de l'ère Artaud.
Ah, voilà.
On va passer par plein de choses comme ça, donc on va passer par Front Rouge, dont tu parles dans ton livre.
Oui, bien sûr.
Tu connais Monique à la technique ?
Oui, bonjour Monique.
Alors, c'est très gentil parce qu'on a eu, des problèmes pour se voir tous les deux.
Oui. Hein,
Monique fait des heures supplémentaires aujourd'hui.
Merci, merci.
Mais
merci.
Je lui ai promis un voyage soit au Baléares, soit aux Seychelles, soit à la porte d'Aubervilliers. J'opte pour la porte d'Aubervilliers.
L'exotisme étant ce qu'il est.
D'accord. Parenthèse, Baléares, c'est de là que part Franco pour... non ?
Disons que le rassemblement de ses premières troupes, c'est dans le Rif espagnol.
Rif espagnol.
Et ensuite, effectivement, le premier, il passe par les Baléares. Et ensuite, bon, c'est pas ma spécialité, mais bon, c'est une chose assez connue. Et ben, c'est à rejoindre, d'un certain point de vue, d'ailleurs, l'histoire coloniale, parce que je vous rappelle que Franco et Pétain, 10 ans plus tôt, au moment de la guerre du Rif, avaient fait une alliance contre les patriotes marocains et donc avaient utilisé déjà les armes chimiques. C'est une chose. Et d'ailleurs, on va peut-être en parler.
Et mais nous, on s'était rencontrés pour un livre, Histoire avec un S, ordinaire et extraordinaire.
Oui, j'ai le même éditeur.
Du temps des colonies, c'est ça ?
Du temps des colonies.
Chez Manifeste.
C'est ça.
Et tu étais venu, je me souviens, parce que j'ai essayé de te le barboter, j'ai pas pu, avec un magnifique album, ton album d'affiches coloniales.
En réalité, oui, c'était même pas seulement des affiches. Le principe, c'était de sélectionner des caricatures qui étaient parues dans la presse, donc ça pouvait être évidemment des affiches, c'était des caricatures parues dans la presse, c'était des publicités. On avait délibérément, parce que on avait choisi un angle d'observation, on avait délibérément éliminé la photo, puisque d'autres collègues ont fait et bien fait. Donc là, c'était vraiment montrer le titre, c'était quand les colonisateurs croquent les indigènes. D'accord. Donc avec un petit jeu de mots sur le verbe croquer. Donc toutes les manifestations du racisme le plus sordide.
La plus célèbre, mais tu l'as pas mis dedans, je me souviens, c'est Yabon Banania.
Oui, voilà, c'était en respect de Yabon Banania, mais c'est tellement connu que je l'ai éliminé. Et je dois dire que c'était 90% de ma collection perso de caricatures, de documentation iconographique sur la... Et puis, bien sûr, la dernière partie concernait l'anticolonialisme, car heureusement, et d'ailleurs, la mouvance libertaire y a tenu sa place, puisque dans le père Pénard, par exemple, il y avait énormément de condamnation du colonialisme. Josso avait fait un certain nombre de caricatures anticolonialistes. Heureusement, il y en eut.
Alors, avant qu'on plonge dans cet Aragon et la question coloniale, il y avait, c'était sur Arte samedi, je crois, une chose, c'est très drôle parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas, tu vois, quoi, qui sont tellement évidentes qu'on ne pense pas. Il y avait un film qui s'appelait, attends, j'ai même le Black Far West, comme ça repasse souvent, là, et il montrait, moi j'y avais jamais pensé, que les cow-boys étaient des Afro-Américains. Et c'est vrai que quand tu vois les films de cow-boys, t'as jamais vu un noir un cheval, ni combattre les Indiens.
Et, oui, oui.
Et pourtant, ça paraît être une évidence.
Bah oui, c'est ce qui correspond à l'esprit colonial généralisé. Hein, donc, la même façon que la conquête de l'Algérie s'est faite en s'appuyant sur certains suppléants autochtones. Et ensuite, regardez la colonisation de Madagascar qui s'est faite avec des tirailleurs sénégalais qui, les pauvres, pouvaient pas donner leur avis, ou la répression de la guerre du Rif avec des soldats algériens. Enfin voilà, ça c'était un des vices profonds du système colonial.
Et pourtant, c'est une évidence.
Parce
que la guerre de sécession a cessé, c'est sûr, comme dit l'autre. Voilà, a cessé, et ben ils sont là. Et c'est pas des intellectuels, c'est des gens qui sont des chevaux.
Ce sont des chevaux
qui sont sur la terre.
Et oui, bien sûr. C'est les gens qui ont besoin de manger. C'est aussi bête que ça.
Alors, il y a un livre qui vient de paraître, Le style réactionnaire de Maurras à Houellebecq. C'est Vincent Bertelier et c'est aussi sur Amsterdam. On fera une émission
C'est
très intéressant.
La filiation est belle.
C'est très drôle. On va être en plein dans le sujet Aragon et la question coloniale. On va y revenir. Dans ton livre, tu parles d'Aragon, bien sûr, qui a écrit Front Rouge en 1931.
Oui.
Front Rouge, c'est ça, ce fameux passage où il faut tirer sur les ours savants de la social-démocratie, Daladier et Léon Blum.
Et
dans le livre, Le style réactionnaire de Maurras à Houellebecq, j'en ai trouvé un qui a eu un procès pour menace de meurtre quant à Blum. Tu sais qui c'est ?
Bah, Aragon ?
Non, c'est Charles Maurras.
Ah, Charles Maurras.
Charles Maurras, voilà.
Pour des raisons.
Oui,
certes,
oui, c'est
très différent.
Ouais, très, très différente, tu vois. Au moment des funérailles de Jacques Bainville,
oui,
historien
oui.
bien connu,
historien
hein.
Connu.
C'est
assez loué.
C'est
réactionnaire.
Modèle de Zemmour.
Réédité. Oui, oui, voilà, oui, absolument.
En février 36, Léon Blum croise le cortège dans la rue et manque d'être lynché par des camarades du Camelot du Roi. À la suite de cette agression, Maurras est condamné par la justice pour complicité de provocation au meurtre. On retient contre lui un article d'avril 35 où il appelait à exécuter Blum.
Oui, oui, c'est une chose assez connue, effectivement. On a même des photos assez terribles de Blum ensanglanté, de Blum enturbané après avec ses pansements. Bon, oui, la haine, mais je me souviens, puisque tu parles de ça, je me souviens d'une réflexion de Mauriac à l'époque à la direction de... j'ai oublié son nom dans les médias. À la direction du Figaro, quand Mauriac travaillait au Figaro, et Mauriac faisait en faisant une voix assez discordante de la tonalité générale du Figaro, en particulier sur l'Algérie. Parce que Mauriac a été un homme très, très, tout à fait respectable. Peut-être qu'un jour je ferai un livre sur lui, d'ailleurs, sur Mauriac et l'Algérie. En tout cas, Mauriac disait donc à la direction du Figaro, ne vous méprenez pas, ceux qui peuvent tuer dans la société française, c'est les gens d'extrême droite. Mmh. Alors que le Figaro était dressé contre les gens de gauche et l'extrême gauche.
Mmh. Voilà. C'est courageux de la part de Mauriac.
Oui, oui, il a toujours été courageux. Enfin, pas toujours, soyons raisonnables. Il a été courageux dans les 15 dernières années de sa vie, en particulier contre la torture en Algérie.
Alors, je t'ai lu avec grande attention, je tiens à te le dire. C'est aux éditions Manifeste, félicitations à notre ami Victor Blanc, je crois qu'il
j'espère qu'il nous écoute.
Ton livre a un inconvénient,
oui.
C'est qu'il aurait dû faire 300 pages. Tellement tu essayes d'embraser de sujets. On va y revenir dans le détail, d'accord ?
J'ai l'habitude de lire 300 pages.
Voilà. Et jusqu'à la fin, puisque tu finis par le fou d'Elsa,
oui.
Selon moi, tu consacres 4 pages, mais tu as envie d'en consacrer beaucoup plus.
Oui.
Hein ? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais te raconter une histoire. J'ai chez moi un Bertolt Brecht. Oui. Qui fait 700 pages ou 800 pages, tu vois, le pavé.
Et sur Brecht ou
sur Brecht, il a toute la biographie de Brecht.
La biographie de Brecht.
Et le type qui a écrit ça démolit Brecht de A jusqu'à Z. Quasiment Brecht, il ne trouve. T'as l'impression d'assister, c'est un livre des années 90, je crois, t'as l'impression d'assister à un livre post-McCarthyisme, tu vois, payé par la CIA, il faut le dégommer. Et il y avait Yves Buin, qui était là un jour, et lui qui a écrit un livre sur Paul Nizan.
Oui.
Et j'ai dit à Yves Buin, mais est-ce qu'on peut faire un travail de biographie comme ça, sans empathie, sans sympathie, oui. pour le personnage ? Et Buin me dit non, c'est quasiment impossible.
Je partage cette opinion.
Et en te lisant, mon cher Alain Ruscio, tu as beaucoup d'empathie pour Aragon. Tu as terriblement d'empathie pour Aragon. Après, tu vois où je veux en arriver, puis après, je te laisse, tu te débrouilles avec ce que je vais te dire. Voilà. Je ne mets aucun moment ton honnêteté en jeu, bien sûr, ni ta sincérité, sinon tu ne serais pas là. Et là, il y a une autre dame, et je ne la connais pas, qui s'appelle Véronique Corinus, et qui parle des mêmes faits que toi. Aragon par rapport à Césaire, etc. Toi, avec les mêmes. Elle a une antipathie pour Aragon et une empathie pour Césaire. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le même regard.
Alors,
voilà, donc ton empathie d'historien par rapport à quelque chose.
On commence par cette période ou on commence par le début ?
Ta neutralité, ton empathie, tu te débrouilles.
Écoute, évidemment, je vais faire un plaidoyer pro domo. Évidemment, je ne partage pas ton regard. Il me semble que lorsque Aragon, humainement... Alors, le Aragon, la dimension humaine d'Aragon est souvent contestée. J'ai en tête, par exemple, l'autobiographie de Claude Roy, qui avait quitté le PC en 1956 et qui avait une antipathie très profonde pour Aragon et qui cite des anecdotes qui, effectivement, ne sont pas à la gloire de l'homme. Or, dans ce que j'écris, il me semble que c'est, au contraire, assez équilibré. Par exemple, la polémique Césaire-Aragon. Je dis a posteriori, aujourd'hui en 2022 c'est plus facile, que Césaire représentait la liberté de création, et ça je crois l'avoir écrit, et que Aragon s'est comporté à cette occasion, parce qu'il était à l'époque l'intellectuel leader incontesté du monde intellectuel communiste. Et je rappelle que la polémique a lieu pendant que Césaire est encore membre du PC. Et donc, Aragon s'est comporté un petit peu comme un maître d'école. Mmh. Je cite un exemple, par exemple, à une réunion de la mutualité. Je dis ça de tête, mais ça doit être à peu près en 50-51. Meeting au cours duquel Aragon et Césaire sont côte à côte. Et Aragon prononce un discours en hommage à Césaire, enfin en le présentant au public. Ça peut être interprété comme un geste amical et même fraternel, mais ça peut être également interprété, c'est comme ça que je l'ai interprété dans mon livre, me semble-t-il, ça peut être également interprété comme une façon un peu paternaliste. Césaire dira plus tard fraternaliste, d'ailleurs. Je crois que c'est lui qui a inventé le néologisme. Il présente un petit peu Césaire comme s'il disait au public « Ayez confiance, si je vous le dis, c'est que Césaire est un type fréquentable. »
Ce qui est très colonial.
Oui, ce qui est très fraternaliste.
Mais quand il écrit, regarde, durant après on plonge dans le livre Premier Juré, hein, « Durant 10 ans, avec sa petite musique personnelle sur la forme. » Moi, en parlant de Césaire, je ne pense pas que ce soit une petite musique personnelle sur la forme. C'est-à-dire que Césaire défend quelque chose qui est, en fin de compte, tout le phénomène africain dans lui.
Oui, mais attention à l'anachronisme. Ce que je dis sur la période d'engagement communiste de Césaire est prouvé quand même par beaucoup de textes. Je donne deux exemples. Le premier exemple, c'est le discours sur le colonialisme.
Magnifique texte, en passant.
Magnifique texte, mais je passe mon temps à rectifier les bibliographies lorsqu'on me dit que ce texte a été publié par les éditions Présence africaine en 1956. Mmh. Ce n'est pas vrai. Il a été publié en 1950 par les éditions Réclame, qui étaient des éditions directement pilotées par le PC. C'est un texte qui est un texte d'orthodoxie communiste à l'époque. Et il est dédié à Jacques Duclos. Mmh. Je signale d'ailleurs que pour ceux qui veulent vérifier au musée d'histoire de la ville de Montreuil, musée avec lequel je collabore souvent, il y a un exemplaire dédicacé de Césaire à Duclos, avec une dédicace extrêmement plus qu'amical, de référence.
Alain, je préfère marquer que 50 n'est pas 56. Hein.
Alors, justement, c'est pour ça que je te parle d'anachronisme. Deuxième exemple, le 13e congrès du PCF qui a lieu à Ivry en 1954, en juin 54, je crois, Césaire va lire un texte qui a été enregistré, qu'on a pu réentendre par la suite. Un texte qui est un texte d'orthodoxie. Alors, je ne me fais pas d'illusions, c'était une époque où un intellectuel qui commençait à prendre ses distances avec le PC ne le disait pas publiquement. Parce que sinon le couperet tombait, les exclusions, la mise à l'index, la dénonciation, évidemment. Mais il a fallu attendre 56 pour que Césaire prenne l'initiative de rompre avec le PC. Il l'a fait d'abord pour Budapest, il l'a fait également pour le fraternalisme et les visions approximatives qu'avait le PC sur les questions coloniales. Donc, je cite également les rapports d'Aragon avec Kateb Yassine, par exemple, où Aragon, humainement, encore une fois, se comporte d'une façon pas très agréable. Et on a l'impression que Kateb Yassine est un petit garçon qui arrive dans son bureau. Et en même temps, Aragon est le premier en France qui publie les textes de Kateb Yassine. Ce n'est pas rien.
Tu sais très bien qu'il n'y a pas que Césaire. Il y a eu Marguerite Duras, il y a eu Roger Vaillant, il y a un autre qui ont été ostracisés.
Mais je le dis dans mon livre.
Mais ça, tu le dis.
Non, je m'attendais.
Ça, je l'ai lu. Tiens, tu lis, c'est parfait.
Par exemple, dans mon livre, je dis que Aragon, je parle de l'Aragon écrivain. Aragon écrivain avait une sorte de d'aura auprès de tous les écrivains communistes de l'époque, André Stil, Pierre Courtade, des gens comme ça, qui étaient considérés comme des écrivains, disons-le sans être péjoratif, mineurs. Mmh. Par contre, Aragon avait des relations conflictuelles et difficiles, voire pas de relations, avec les écrivains communistes majeurs. Je cite Duras, je cite Vaillant et je cite Césaire. Ce n'est pas rien. Donc je ne suis pas un aragonien sans rivage.
Avant, on va écouter une musique. Tu vas faire le disque jockey. Tu vas commenter. Tu vas commenter le disque qui passe là. Lorsque Breton est mort, ouais. Je crois que c'est le Libertaire qui avait titré un grand crime contre l'intelligence. Breton est mort, Arago est toujours vivant.
Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que nos buts a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part, ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri.
Superbe, non?
Oui, doublement superbe. Arago Ferré, que peut-on rêver de mieux? Ah oui, donc c'est un poème dans une somme qui s'appelle Le roman inachevé, qui contrairement au titre n'est pas un roman, mais est un recueil de poésie. Et donc dans Le roman inachevé, Arago a mis énormément d'éléments autobiographiques. Et donc là, il s'agit, je rappelle qu'Arago a été militaire à son corps défendant, bien sûr, lors des deux guerres mondiales. Il était très jeune lors de la Première Guerre mondiale. Je crois qu'il est parti en 16 ou 17. Mmh. Et donc il a assisté à des choses absolument abominables. Et lorsqu'il parle de ses copains de régiment, ses camarades de régiment qui sont en train de jouer à la bolotte ou au tarot, je sais plus, l'un d'entre eux est coupé en deux par un obus. C'est des choses vécues.
On écoutera Est-ce ainsi que les hommes vivent. C'est du même recueil et c'est l'occupation française dans la Sarre.
Oui, bien sûr.
Donc ton livre. C'est très drôle parce que moi, bon, je connais un petit peu quand même, ça me dit quelque chose, le RIF, ça me dit quelque chose, l'Éthiopie, ça me dit quelque chose, et j'ai fait un tour de table autour de moi, la guerre du RIF, personne ne connaît,
tu vois. Oui, hélas.
Voilà.
Et c'est pas faute d'avoir essayé.
Alors, oui, je sais, on a déjà parlé la dernière fois. Donc dans ton livre, par exemple, je sens que tu es très intéressé par l'histoire du surréalisme,
oui.
Très intéressé par les rapports bretons et Arago, et ça se sent. Tu vois, ça que je voulais te dire.
Oui.
Tu aurais pu faire 300 pages sur le sujet, on aurait pu faire 5 émissions, on n'aurait pas été d'accord, monsieur Ruscio. Donc, bon. 1920, 1922, la guerre du RIF.
Non.
Allez, vas-y.
La guerre du Rif commence par la... je rappelle rapidement la situation du Maroc à l'époque. Le Maroc est sous double protectorat, avec donc le nord et l'extrême sud, ce qu'on appelle Rio del Oro, qui aujourd'hui est considéré par certains comme le Maroc, le Sahara marocain, par d'autres comme un État en révolte, donc je ne reviens pas là-dessus. Donc l'Espagne domine le nord et l'extrême sud, mais une bande côtière saharienne, et la France occupe le centre. La France n'a pas a oublié d'être bête, en l'occurrence, elle a occupé le Maroc utile, c'est-à-dire là où il y a vraiment toutes les richesses. Bon, et donc un chef de tribu qui dans un premier temps est d'ailleurs issu d'un notable de tribu qui s'appelle Abdelkrim, lève l'étendard de la révolte contre l'armée espagnole dans un premier temps, va faire subir à l'armée espagnole des défaites considérables avec des milliers de morts, hein. C'est une chose qui est oubliée aujourd'hui, c'est une sorte de Dien Bien Phu marocain, si vous voulez, c'est quand même énorme. Et suite à quoi donc il va y avoir une alliance entre quand la France coloniale voit que l'Espagne coloniale est en difficulté, il va y avoir une alliance de fait entre la France et le Maroc et l'Espagne contre le Rif, contre les Rifains, et donc celui qui va venir au Maroc pour la France, c'est celui qui à l'époque est le maréchal Pétain, que j'appelle
c'est déjà Pétain.
Et du côté de espagnol, c'est Primo de Rivera, mais son adjoint direct, c'est Francisco Franco.
Magnifique.
Donc l'alliance Franco-Pétain est déjà une préfiguration
L'histoire est là.
Excusez-moi l'expression, c'est une saloperie intégrale, quoi.
C'est un lettré, Abdelkrim, ou pas?
Alors,
comme Ho Chi Minh ou pas, ou c'est...
C'est difficile de comparer. Disons qu'il a une culture personnelle, mais il est issu des tribus du Rif, dans lesquelles l'alphabétisation est très très faible, la scolarisation est très faible. En tout cas, il va y avoir cette alliance, et la guerre du Rif va donc commencer en 22-23 contre l'Espagne, et va se terminer en 26, face où Abdelkrim est obligé de capituler face à la coalition franco-espagnole, qui, je le signale au passage, utilise des armes chimiques. C'est peut-être la première utilisation d'armes chimiques contre des populations civiles. Et aujourd'hui encore, il y a d'ailleurs des colloques qui se tiennent au Maroc pour dénoncer l'utilisation de ces armes chimiques et pour demander réparation à la France et à l'Espagne.
C'est un héros national, Abdelkrim, ou pour le Maroc ?
Alors c'est compliqué. C'est compliqué. À l'époque de la guerre du Rif, le sultan du Maroc, qui est déjà à l'époque Mohamed Ben Youssef, qui est très jeune, qui a été choisi, le pauvre, il avait vraiment aucune formation politique, va être un petit peu instrumentalisé par les Français, et donc ne va pas du tout se rallier, c'est le moins qu'on puisse dire, à la révolte d'Abdelkrim. Ce qui fait que lorsque Abdelkrim sera ensuite exilé par le colonialisme français, il sera exilé à la Réunion, je dis une bêtise, à Madagascar, et il va réussir ensuite à s'échapper en 1947, vous voyez ça. Et ensuite, lorsque le Maroc sera indépendant, à partir de 1956, Abdelkrim refusera de venir finir ses jours au Maroc. Et au Caire, là où il était exilé, rencontrera Che Guevara, c'est pas rien. Abdelkrim, pendant la guerre dans la Chine, écrira à Ho Chi Minh pour soutenir la lutte d'Ho Chi Minh. Vous voyez, c'est vraiment... C'est magnifique de voir ce
oui, croisement. En même temps, c'est l'histoire moderne.
C'est l'histoire moderne. Et puis c'est l'histoire de l'internationalisme à l'état pur, je dirais. Donc voilà. Et donc, pour revenir à Aragon... Aragon et ses amis surréalistes ont leur premier combat politique, je dis bien politique parce qu'auparavant ils étaient très peu politisés, ils étaient plutôt des esthètes, parfois des dandys, on les accusait un petit peu de ce dandysme, mais ils s'aperçoivent à ce moment-là qu'il faut faire quelque chose.
Il y en a un qui y a été, c'est Desnos. Desnos a fait la guerre du Rif.
Oui, Desnos a fait la guerre du Rif.
Voilà.
Mais il l'a fait. Justement, il était une source de renseignement pour la communauté israélienne.
Parce que générationnellement, Aragon c'est 96, tu me corriges, hein, 96, oui, Breton 96, et Desnos c'est 1900. Oui. C'est-à-dire générationnellement, ça tombe.
Breton 95, je crois qu'il avait un an de plus.
Ah bon, d'accord.
Peut-être, d'accord, à vérifier.
Voilà.
En tout état de cause, donc, on parle de Desnos, mais il y a également également Benjamin Perret.
Il y a
également Pierre Unique, voilà, il y a Appel-et-Loire, bien sûr.
Ils sont tous concernés par ça.
Alors, ils sont tous concernés par ça. Ils vont se rallier à un appel rédigé par Henri Barbusse, que pourtant ils détestaient, par ailleurs, littérairement parlant. Ils considéraient que Barbusse était vraiment de la...
C'était un vieux con,
voilà.
Oui, bien sûr.
Et donc, mais ils vont se rallier à cet appel, et il va y avoir une sorte de compagnonnage de route entre surréalistes et communistes qui va durer 6 ans quand même, ce n'est pas rien, avec cette particularité, c'est que Aragon, Éluard, Breton, pas Desnos, adhèrent au PCF, que Éluard et Breton le quittent très vite, parce qu'ils considèrent que c'est invivable, et Aragon reste. Et donc la coopération communiste-surréaliste va durer jusqu'à la contre-exposition de 1931.
31, année de front rouge d'ailleurs.
En 31, l'État français, avec tous les moyens dont il dispose, plus les sociétés privées, plus la presse, etc., organise la grande exposition coloniale de Vincennes, qui recueille la visite de 8 millions de Français et Françaises, donc c'est énorme, et les surréalistes et les communistes vont organiser une contre-exposition qui va se tenir Place du Combat, qui est aujourd'hui la place du colonel Fabien.
Alors, je vais te faire un grand aveu, j'étais à la manif hier et j'ai repassé ton livre, là. À un moment donné, tu racontes que c'est Breton ou Aragon, tu sais plus lequel dit quoi à qui dit « Ah ben, ces gens manifestent pour avoir 3 sous, ouais. » Et puis, ces dentistes sont très méprisants. Et je regardais la foule hier, et je disais « Ben, ces gens-là, où se situeraient un Breton et un Aragon ?» Tu vois, par rapport à ça.
Je crois qu'effectivement, c'est une étape, plus chez Aragon que chez Breton, parce que je pense que Breton, au fond de lui-même, était resté quand même assez distant avec ce qu'en 68 on a appelé les revendications alimentaires. Bon, c'est un petit peu le même esprit, hein. Mais je pense qu'Aragon, justement, a fait les pas d'essayer d'associer les deux revendications, les deux soucis, les deux problèmes de la société française. Dans un premier temps, effectivement, c'est Breton qui dit ça à Aragon. Aragon en a témoigné des années plus tard. Quand on pense qu'il y a la guerre du Rif, ils osent manifester pour leur 10 sous, quelque chose comme ça. Aragon acquiesce à ce moment-là. Et c'est bien plus tard, lorsqu'il est membre du comité central du PC, et il fait un discours qui a été un discours oral, je veux dire que la transcription a été orale, il raconte cette anecdote, et il dit que, justement, ça peut être pour certains un premier pas vers la solidarité internationale.
Cette préoccupation du matériel, c'est Césaire qui l'a aussi. Césaire, quand il va se rejoindre la... Je sais plus, c'est pour la départementalisation,
oui,
là.
46.
Il est déchiré. Il dit, moi, ce que je veux, c'est qu'à la Martinique, on ait de l'eau et qu'on puisse rouler sur les routes. C'est une déchirure.
Bien sûr.
Voilà. Dans ton livre, et puis on va progresser, t'inquiète pas. Dans ton livre, tu regardes, tu dis à un moment donné que tu tiens à le dire, que la déchirure entre Breton et Aragon est une immense déchirure.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est Aragon.
Oui.
Je crois que Aragon a quand même... Alors là, c'est une interprétation peut-être un petit peu... psychologique ou peut-être même psychanalytique, j'en sais rien.
Parce que c'est le mot que je veux employer ce mot-là. Alors,
ah bon,
vas-y,
bah,
vas-y,
allons-y. Je pense qu'Aragon, au fond de lui-même, quand même, considérait qu'il avait chargé la mule, quoi, contre Breton. Et que, d'un certain point de vue, sa fidélité permanente au PC l'a amené souvent à accuser Breton. N'oubliez pas que Breton a fréquenté les cercles trotskistes, et à l'époque, pour les communistes, le terme de trotskiste était un terme de dénonciation politique. Donc, et je crois qu'Aragon, au fond de lui-même, devait se dire quand même, il n'est pas possible que Breton soit l'homme tel que je le dénonce, quoi.
Déjà, Breton va finir sa vie du côté des libertaires.
Oui.
Donc il va quitter tout ça. Deuxièmement, il y a dans le rapport. Alors, je tiens cette information, mais je le savais déjà, et puis c'est tellement clair. D'un ami à toi, d'un ami commun que nous avons, c'est l'infréquentable Valère Staraselski.
Oui, oui.
Voilà, j'espère qu'il nous écoute. Salut Valère.
Oui, salut Valère. Salut Valère.
D'accord. Qui me disait qu'entre, et je suis d'accord avec lui, entre Aragon et Breton, c'était une histoire d'amour.
Oui,
il y a une histoire d'amour ouverte, de deux jeunes hommes, de deux dandys qui se sont ouvertement aimés.
Oui, tout à fait, je crois. Je ne sais pas si je le dis dans mon livre, mais en tout cas, ça transpire dans les écrits d'Aragon. Et puis, au moment de la mort de Breton, évidemment, Aragon traînera toute sa vie la culpabilité de ne pas avoir dit. Mais c'était le fossé était trop important. Il y avait n'oubliez pas quand même, je le dis dans le livre, qu'à un certain moment, Breton dit qu'il aurait fallu faire fusiller Aragon. C'était quand même pas à fleur et moucheté. Hein. Et à contrario, l'affaire Nizan, par
l'affaire
exemple.
L'affaire Nizan, on va en parler, oui.
Oui, l'affaire Nizan a été une tâche indélébile sur le.
Ce qui n'a pas arrangé les choses.
L'histoire intellectuelle d'Aragon, c'est clair.
Mais il y a quelque chose. Déjà, les amitiés d'Aragon sont aussi parfois inquiétantes. Tu vois bien te souvenir qu'il a eu comme très grand ami Drieu La Rochelle. Hein.
Oui, c'est vrai.
Le traité de style est quand même dédié à Drieu La Rochelle.
Ça, c'était dans les années.
Hein, oui, non,
Breton,
je veux dire.
Aussi, le Breton aussi le fréquentait à l'époque.
Tu sais que, effectivement, Aragon va rendre hommage à Breton. Je crois que Breton n'a jamais plus parlé d'Aragon.
Ouais, je pense.
Voilà.
Aussi, je pense.
Et tu sais que dans la même série, Roger Vaillant va envoyer son. Alors que la rupture a été terrible avec Breton, va envoyer son. Je crois que c'est un exemplaire de la loi dédicacé à Breton qui ne va pas lui répondre.
Ah oui.
Tu vois,
oui, Breton était comme ça, oui.
Voilà. Mais, ah oui, c'est ça, voilà. Mais je crois que. Je prends ton terme, on est dans la psychanalyse, là. Ce sont deux mondes, au niveau psychanalytique, complètement différents. Tu vois ce que je veux dire, complètement différent là. Il faut pas faire du papa Freud à la petite semaine, mais tu as le dandy, c'est lui qui est resté le dandy, ça a été Breton, même s'il a vendu, il a vécu en vendant des tableaux, etc. C'est quelque chose. Et l'autre qui règle ses comptes qui a besoin du peuple. Aragon a besoin du peuple, non?
Oui, bien sûr. Bah oui. D'autant plus qu'il adhère au PC et reste au PC à une époque qui est extrêmement ouvriériste. Je le dis dans le livre. Un intellectuel qui adhère au PC, donc si je me rappelle bien. En 25, je crois, ou peut-être début 26. Un intellectuel qui adhère au PC en 26, il doit faire ses preuves, il doit presque s'excuser d'être un écrivain et donc prouver qu'il est fidèle à la classe ouvrière.
Oui, parce qu'on lui, on lui
et
dit,
c'est un examen de passage.
Voilà, c'est ça, un examen de passage, c'est ce que tu
permanent.
Dis. Ouais, c'est ce que tu dis. Mais tu sais aussi bien que moi que Aragon n'a jamais fait dans la dentelle, c'est-à-dire que lorsqu'il y a le procès Anatole France, il y a cette fameuse phrase « Avez-vous déjà giflé un mort ?» Il va loin. En 31, c'est Front Rouge où il appelle à descendre Léon Blum.
Oui.
Quand il fait de la poésie nationale, alors c'est vraiment national parce que c'est alors là c'est au niveau du vers de Mirliton, on sera peut-être pas d'accord, mais ça y va. Et c'est comme ça. Et quand il va se promener dans Paris avec des jeunes hommes, faut avouer, il accentue aussi la situation.
Qui fait même le brouillon de ses baisers sur le statut de Mayol.
Voilà. C'est-à-dire qu'il donne pas dans la dentelle, c'est ça que
non,
je veux
alors,
dire.
Alors oui, bah c'était. Je veux dire, les grands hommes ont peut-être le droit, après tout, d'avoir ces vies excessives.
J'ai rencontré une fois Aragon, je le fais, puis on continue ensemble.
Vas-y.
Et ça va te faire très plaisir. J'ai rencontré Aragon au théâtre de la Ville. Il descendait, il était avec un giton, deux gitons comme ça. Tout était cheveux blancs, veste, etc., pompe rouge. Et là, oui, c'est lui, c'est exactement ça. Et là, j'étais avec un ami à moi, Jimmy Gladiator, qui lui dit Louis Aragon. Alors Aragon s'arrête et je vais vous poser une question. Et Aragon s'est mis en arrière parce qu'il a été un peu, il était vieux, il était assez effrayé, et mon ami Jimmy Gladiator lui pose une question historique. Il lui dit, est-ce vrai que tel jour, etc., etc. Et Aragon, ça corrobore, tu le dis à un moment donné, hein, corrobore, il dit oui, c'était tel jour, ça s'est pas passé par écrit, ça s'est passé par téléphone, et il était telle heure, etc. Avec une mémoire stupéfiante, immédiatement.
Oui, non, mais ça c'est pas étonnant, ça.
Voilà. Terrible.
Oui, voilà. C'est pas étonnant. Ben, sa mémoire, d'ailleurs, lui a permis également d'être le grand écrivain qu'il est. Puisque, bon, il y a des références historiques, des références culturelles foisonnent dans son œuvre. Dans le fou d'Elsa, on va peut-être avoir le temps d'en parler.
J'espère qu'on va en avoir parlé. On va se faire un petit plaisir. Allez, et puis, il y a un épisode historique que les gens ne connaissent pas. Puis, avec l'actualité actuellement en Italie, c'est très intéressant. C'est l'Éthiopie.
Oui, très bien.
L'Éthiopie. On va le faire progressivement.
D'accord.
Sur Radio Libertaire. Merci, Monique.
Tout était affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? Des soleils révolus.
Alors, est-ce ainsi que les hommes vivent au 01 43 71 89 40 avec Alain Ruscio? Bien voilà, c'est vrai, c'est la première, oui. La première guerre mondiale, hein.
Oui, c'est la première guerre mondiale.
Dire,
dans
ça,
le quartier d'Hohenzollern, c'est le moment de l'occupation de la
Sarre,
oui.
Voilà. Donc, il y a cette histoire, ça on connaît un peu, c'est dans l'air du temps. Il y a une chose qu'on connaît moins, ça a été l'Éthiopie.
Oui. Alors, effectivement, on a tendance à... Bon, la vulgate historique a tendance à dire que la Seconde Guerre mondiale a commencé en septembre 1939. En réalité, elle a commencé déjà en 1935 par l'agression du Japon contre la Chine à l'époque nationaliste, et puis par les empiétements progressifs des puissances fascistes, et par l'agression de l'Italie mussolinienne contre l'Éthiopie, qui était peut-être le dernier ou un des derniers. Il y avait le Libéria aussi, mais enfin il restait deux ou trois États indépendants en Afrique tout court d'ailleurs à l'époque, et donc Mussolini a jeté son dévolu sur l'Éthiopie. Ça a été une guerre très violente, mais la disproportion des forces a fait que l'armée italienne a très très rapidement conquis l'Éthiopie. Et c'était un moment, donc on est en 35 là, hein, un moment un petit peu de gestation de ce qu'on peut appeler un pré-front populaire intellectuel. C'est-à-dire, un certain nombre d'intellectuels, en voyant la montée du fascisme, ont cessé les divergences intestines entre eux, entre les communistes ou communisants, socialistes ou socialisants, les radicaux, les démocrates de tout poil, je dirais. À partir de ce moment-là, ils se sont aperçus, bon, c'est le mouvement Amsterdam-Pleyel qui commence en 34, je crois. L'arrivée d'Hitler au pouvoir 33, Amsterdam-Pleyel 34, la guerre d'Éthiopie 35, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et Aragon, avec Jules Romain, qui finira beaucoup, beaucoup plus mal, puisque Jules Romain finira vraiment à la droite de la droite, mais avec Jules Romain et avec d'autres, avec Jean Guéhenno, avec des gens comme ça, vont initier un appel d'intellectuels contre la guerre d'Éthiopie, qui aujourd'hui encore se lit avec beaucoup, beaucoup de plaisir, puisque c'est vraiment un cri d'alerte en disant si on continue à laisser faire le fascisme, et puis j'ai oublié tout à l'heure dans la liste, tout de suite après, c'est la révolte de Franco, donc la guerre d'Espagne qui commence en 36, donc il y a vraiment une sorte de conjonction là, des événements qui est absolument terrifiante.
Amsterdam-Pleyel, c'est le noyau de ce qui va devenir l'association des écrivains et des artistes.
Le comité de vigilance.
Le comité de vigilance. Hein.
Les intellectuels antifascistes.
Alors on sent le fascisme qui arrive là,
et, oui.
Et effectivement l'Éthiopie, maintenant on ne sait pas trop ce que c'est, mais va être le point de départ de cette mobilisation.
Absolument. Absolument. Alors, ce que je dis également dans mon livre, parce que on a toujours tendance à oublier un petit peu la répartition des forces, c'est que contre l'appel, qu'on peut appeler l'appel d'Aragon, puisque beaucoup pensent que c'est lui qui l'a rédigé, ça n'a pas été prouvé, mais enfin, moi je cite ça en note dans mon livre, contre l'appel, en tout cas, initié par Aragon, et il va y avoir un contre-appel des intellectuels avec la patrie, qui est signé pas seulement par les intellectuels de droite, Charles Maurras, toute cette clique fascisante, mais également par un grand nombre d'intellectuels de la droite traditionnelle, l'Académie française. L'Académie, on dirait qu'aujourd'hui, quand on la regarde, on sait qu'elle est également infestée par la réaction. Mais à l'époque, l'Académie française n'a pratiquement des gens comme Henri Bordeaux, par exemple, des gens comme ça.
Hermant aussi, un mec.
Oui, Abel Hermant, bien sûr.
Qui était directeur, donc directeur de l'Académie française, non, c'était le...
Non, je ne sais pas.
Non, d'accord,
ça va vérifier. Ouais,
c'était des gens
très bien. Quantitativement, il y a beaucoup plus de gens qui signent l'appel de soutien à Mussolini que de gens. Alors aujourd'hui, le prestige, évidemment, il est du côté des signataires. Je pense qu'il y avait Breton déjà à cette époque. Il y avait vraiment tous les gens qui étaient vraiment engagés contre le fascisme. Mais Mussolini a eu des défenseurs en France.
Mais on en a encore, hein.
Ah oui, encore.
Il en a encore. Si tu vas
en Italie,
je peux te dire que l'Italie du Nord est complètement polluée par ça, hein.
C'est incroyable.
Oui, incroyable. Et ça, c'est ce qui est très drôle, c'est que nos experts et nos spécialistes qui découvrent ça à la télévision, moi je fréquente énormément tout ce qu'on appelle les lacs, tu vois, les lacs vers Milan. Et ça fait, tu vois des attitudes fascisantes. Tu vois ce film, Une journée particulière.
Ah oui, oui.
Tu vois des beaux mâles, tu les mets là-dedans avec le filet sur la tête et que c'est en train de défiler, c'est exactement ça. On est dedans. Ça, on ne savait pas. Une petite pique idéologique et puis après on continue, d'accord, ça te va?
On y va.
On peut se permettre ça quand même. Alors, j'y vais à la serre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, hein. J'y vais, etc. Le Parti communiste, c'est Marx. Le Marx, est-ce qu'il n'y a pas un côté monolithique qui empêche quelque part que l'individu, comme les surréalistes pouvaient l'entendre, puisse s'exprimer? C'est-à-dire, est-ce que la grande rupture Breton-Aragon ne s'y situe en fin de compte pas là?
Ben, moi, je ne considère pas ça comme une pique idéologique, je considère ça comme une réalité. Je veux dire, bien sûr que oui. Le marxisme du PCF de ces années-là, et je pense qu'on peut étendre l'analyse à bien des décennies plus tard, c'est un marxisme ossifié, qui est un marxisme extrêmement rigoureux, avec l'interdiction de sortir. Je veux dire, si on regarde les noms des plus grands penseurs marxistes français du XXe siècle, bon, on peut penser à Politzer, qui était plutôt, bon, il a pas vécu, donc on peut pas savoir ce qu'aurait été son. Mais je pense à Henri Lefebvre, par exemple, des gens comme ça qui ont été marginalisés par une sorte de ce que j'ai appelé une ossification mise en place autour de autour des principes du léninisme de Staline.
Je continue ma provocation.
Mais c'est pas la provocation.
Si on regarde bien l'histoire, Alain, si on regarde bien l'histoire, et tu vas voir où je veux en arriver. Hein. Je suis dialecticien. Bon, tu vas voir où je veux en arriver. Le PC va rentrer dans la résistance une fois. Tu me corriges, hein, c'est pas moi l'historien, c'est toi. Une fois que le pacte germano-soviétique va être dénoncé.
Non, là-dessus, je partage pas cette. Le Parti communiste a adhéré dans un premier temps. Alors bon, là encore, on sort complètement de mon sujet et je suis loin d'être un spécialiste. Mais bon, il y a des gens qui ont travaillé beaucoup là-dessus et je les ai quand même un peu lus. L'analyse de l'international communiste en 1939 est de dire qu'une guerre interimpérialiste commence. Donc on n'a pas à choisir notre camp. Et le PC évidemment adhère à ça. Alors le PC clandestin, quand même pas oublier que c'est pas Vichy qui a dissous le PC, hein, c'est la Troisième République. Hein.
N'empêche qu'on réclame la republication de l'humanité.
Oui, mais c'est pas n'empêche, c'est vrai. Dans cette première période, il y a une sorte de cheminement parallèle entre une aspiration à la résistance immédiate au nazisme et en même temps ce mot d'ordre de l'international communiste, mot d'ordre auquel le PC souscrit, la direction du PC souscrit, de dire qu'il faut essayer à l'intérieur de la situation nouvelle que la voix communiste puisse continuer à s'exprimer. Et donc c'est une chose qui a été longtemps reprochée à juste titre à la direction du PC de dire il faut essayer de faire reparaître l'humanité. Mais dès ce moment-là, n'oubliez pas que le premier numéro de l'humanité interdit, je crois que ça va être le 25 août 39, est un numéro qui appelle à la lutte contre le nazisme.
Contre le nazisme. Mais ça, c'est pour en arriver au nom que tu as prononcé tout à l'heure, toi, celui de Paul Nizan.
Oui.
Voilà. Paul Nizan, c'est l'exemple même d'un monolithisme qu'il ne peut pas accepter, ni Nizan. Aragon ne va pas accepter Nizan.
Ah, bien sûr que oui.
Non, mais ça, bien sûr que non. Il n'accepte pas.
Bien sûr que non. Oui, bien sûr que non qu'il ne l'accepte pas. Voilà. Bien sûr que oui à ton affirmation.
D'accord. Un ostracisme par rapport à Paul Nizan et qui va être perpétué.
La culture communiste de l'époque stalinienne ou issue de l'époque stalinienne, donc dans les même des décennies qui ont suivi, est une culture qui considère que le PC doit être face à la bourgeoisie qui est éminemment bien organisé, le PC, qui se considère comme quelque sorte l'état-major du prolétariat révolutionnaire, doit être lui aussi extrêmement organisé et discipliné. Et que toute voix qui est dissidente par rapport au discours dominant, celui qui est imprimé par le bureau politique, est une voix à exclure. J'en sais quelque chose, puisque en tant qu'historien, en tant que jeune historien, quand j'avais 20-25 ans, j'ai fait partie des gens qui ont commencé à considérer que ça ne pouvait pas continuer et que l'écriture de l'histoire, par exemple, ne pouvait pas être seulement dictée par le bureau politique. Et je me souviens des premiers moments où je fréquentais ce qui s'appelait à l'époque l'Institut Maurice Thorez. Les gens qui donnaient la vérité historique étaient Jacques Duclos, Georges Cogniot, paix à leur cendre et à leur mémoire, mais c'était les politiques qui décidaient. Et l'écriture critique de l'histoire telle que la nouvelle génération a commencé à l'écrire, a décollé à ce moment-là. Et donc, à certains moments, on a été considérés, nous aussi, comme des gens qui portaient trop loin la critique. Je dis dissident, non, le mot n'était pas employé, mais des gens qui portaient trop loin la critique. Donc, oui, c'était une culture monolithique.
C'est monolithique,
Bien sûr, on enfonce des portes ouvertes, là.
Voilà. Oui, mais tu vas voir où je veux en arriver. C'est monolithique, mais tu arrives... Alors, je pensais... On a le temps. T'inquiète pas, on va faire un petit saut en avant, puis on va en arrière. On peut se le permettre, il n'y a aucun problème. Hein. Tu as ça, et pendant la guerre d'Algérie, par exemple, ouais. Tu as Alors, il faut dire que le Aragon, le PC, a pris position. Il n'est pas le seul non plus. Hein. Le témoignage chrétien a pris position. Les socialistes ont pris position.
Des socialistes,
quand on dit ça, c'est bien.
Et des socialistes très minoritaires.
On pris position. Les libertaires ont pris position aussi. Mais
les trotskistes, bien sûr.
Il y a cet appel à la désertion. C'est-à-dire que c'est marqué dans ton livre. Il y en a un, c'est André Steele, ou je ne sais plus, tu me corrigeras, qui dit qu'il ne comprend pas que des jeunes communistes puissent aller se battre. En Algérie, mais en même temps, le PC, qu'est-ce qu'il fait ? Il peut pas appeler à la désertion parce que Lénine a dit quelque part que l'armée doit être faite avec des jeunes hommes du peuple, quoi.
Bah, écoute, je vais peut-être te surprendre et j'espère que ça va pas faire tomber les murs de Radio Libertaire. Mais pour moi, Lénine avait raison. Parce que l'idée que on puisse essayer de l'intérieur de l'appareil d'État, lorsque les circonstances ont placé tel ou tel dans cet intérieur de l'appareil d'État, qu'il puisse essayer de le transformer, ou en tout cas d'éviter les pires aspects, ne me paraît pas quelque chose d'insensé. Si tous les prolétaires refusaient d'aller à l'armée, ça serait un mot d'ordre magnifique. Mais c'est un mot d'ordre qui est irréalisable. Et pendant la guerre d'Algérie, on l'a vu. Donc, autant, en réalité, c'est-à-dire même pas la désertion, c'est l'insoumission.
Aragon n'a pas signé le manifeste des 321.
Non.
Et là, il se plie à la position à la position communiste.
Hein. Oui, mais la position communiste, c'était que l'insoumission n'était pas considérée comme la solution pour mettre fin à la guerre d'Algérie. Mais par contre, il y avait le respect des gens qui l'avaient signé, et il y a un éditorial de l'Humanité que je cite dans un autre livre qui dit soutien, ce n'est pas notre position, voilà. Grand 1, ce n'est pas notre position, et deuxièmement, grand 2, le dénonciation de la répression dont ces gens sont victimes. Mais l'expérience a prouvé quand même que au moment du putsch des généraux, il y avait quand même quelques dizaines de milliers de soldats qui étaient issus de la population, on va pas dire du peuple, et qui étaient soit de sensibilité communiste, soit beaucoup de sensibilité catholique, par exemple, qui se sont opposés. Je parle des appelés qui se sont opposés au nom de leurs valeurs au putsch des généraux, et qui ont contribué. Ce n'a pas été la première cause. Mais ce qui ont contribué à l'échec du putsch des généraux. Donc, il me semble que l'idée de... Quand Lénine dit « Prends un fusil, si on te donne un fusil à l'armée, prends-le et apprends à t'en servir », parce qu'après tout, il peut y arriver un moment où tu auras besoin de t'en servir contre l'ennemi de classe. Je parle du langage des années 20-30, évidemment, quand Lénine est encore vivant.
Mais c'est là, c'est les grandes ruptures entre Aragon et Breton. N'est plus du tout le même langage.
Ah non, pas du tout. Alors, plein d'intellectuels de gauche qui.
Bien sûr.
Avec Simone Signoret, avec.
Tout à l'heure, je te disais, je suis à l'antenne ou dans le micro, je ne sais pas, c'est qu'on trouve effectivement les témoignages chrétiens qui a pris une position très ferme de désertion pendant la guerre d'Algérie, les libertaires. Certains socialistes et passé la semaine dernière un film sur la guerre quatre épisodes sur Arte ou sur Public Sénat, je sais pas, avec Benjamin Stora, on a parlé tout à l'heure, et là on voit clairement ce qu'a été Mitterrand. De dureté de langage.
Bien sûr.
De répression, qui a fait venir la guillotine, etc. Et c'est très bien foutu, parce qu'il est là, il est en Algérie, mais il est ministre de l'Intérieur, c'est ça, il est ministre de l'Intérieur.
Excuse-moi, il n'est pas socialiste à l'époque.
Hein. Il n'est pas socialiste à l'époque, oui, mais attention, là, c'est la naissance du PSU, on voit tous les jeunes gens du PSU, Rocard, Anco, qui voit ce type en train d'appeler à massacrer les Algériens.
Hein. Oui. Voilà. Alors, l'appel au massacre des Algériens, effectivement, c'est Mitterrand a été toute sa vie, j'apprends rien aux auditeurs de Radio Libertaire, a été un être retors. Hein. Et il a eu le culot au moment de la naissance du PSU en 1960, lorsqu'il était plus ministre, puisqu'évidemment, sous la 5e, il n'était pas ministre, il a eu le culot de demander son adhésion au PSU. C'est quand même une chose qu'il faut savoir. Et donc, évidemment, heureusement, les gens du PSU l'ont envoyé balader. Mais Pierre Mendès-France a adhéré au PSU. Pierre Mendès-France, c'est quand même celui qui a dit en novembre 54, l'Algérie, c'est la France. Vous voyez, les choses sont... Mais ni Mendès ni Mitterrand n'étaient socialistes. Mendès n'a jamais été.
Il y avait dans les archives, il y a un très bel interview d'un camarade à nous, c'est Bijard. Bijard est un grand comique, il est très marrant. Bijard est très marrant. Oui, hein. Il est très marrant et à un moment donné, on lui demande, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit il y a eu la guerre de Corée, on l'a perdue. Il y a eu la guerre d'Indochine, on l'a perdue. Il y a eu la guerre d'Algérie, qu'on a perdue. C'est-à-dire que c'est un militaire qui perd toutes ces guerres, ces guerres coloniales.
Qui est aujourd'hui une gloire de la France.
Une gloire de la France, magnifique.
Oui, bien sûr.
Voilà. On écoute... Ah, papa, merci mon papa.
On est dans les temps.
Oui, c'est pour ça.
Que tu paraisses de l'air, que te fera ta chant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim. Encore de connaître notre histoire jusqu'à la fin. Ces miracles que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue, toujours si je te vois, je tremble. Comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. Pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, d'une aile à la cime des bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche. C'est toujours la première fois quand ta robe en passant me touche. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré, toi dans les bras on su barrer sa route atroce à ma démence. Et qui m'a montré la contrée que la bonté seule ensemence. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un genièvre à la Noël entre tes doigts. Je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fera ta chant tes cheveux, ce geste touchant que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse.
Eh ben, au 01 43 71 89 40, ben, je viens d'être mis en minorité, là, par Monique et puis à la Russio, là, voilà. Pour ce livre, Aragon et la question coloniale, je crois, édition Manifeste.
Oui.
Hein, c'est très bien. Ça fait longtemps que tu le portais, ce livre, tu le pensais depuis longtemps?
Ah, bonne question. Bon dialogue, pour être plus précis.
C'est bien, c'est un meilleur, quoi.
Oui. Non, pas très longtemps, en réalité. En réalité, ce livre m'est venu, d'ailleurs tu m'avais invité ici, pendant la rédaction d'un autre livre qui s'appelle « Les communistes et l'Algérie, 1920-1962 », à la découverte, publié en 2019. Donc c'était là vraiment une sorte de balayage des relations conflictuelles et parfois compliquées entre les communistes, pas seulement français mais également algériens, et la question algérienne, l'indépendance, etc. Bon, je ne reviens pas là-dessus. En regardant de près, en feuilletant, en lisant même, les différents travaux sur les intellectuels et la guerre d'Algérie, j'ai vraiment été, je dirais, époustouflé par l'injustice dont est victime encore aujourd'hui Aragon. Les travaux universitaires sur Camus, je dirais tout de suite après que je ne les mets pas sur le même plan, mais je cite en tout cas, sur Camus, sur Sartre, sur Pierre Vidal-Naquet, sur Madeleine Rébériou, etc., sur François Mauriac, sont de valeur d'ailleurs inégale, mais existent. Les colloques sur les intellectuels de la guerre d'Algérie ignorent Aragon. Ignore. J'ai en tête un livre, je ne vais pas me faire d'ennemis dans le monde des historiens, donc je ne citerai pas le nom, mais un colloque des années 80 sur les intellectuels et la guerre d'Algérie. Aragon n'est pas dans l'index. Il n'est pas cité une fois. Et là, trop, c'est trop. Je sais que beaucoup, je dirais, adorent détester Aragon. Parce qu'il l'associe au stalinisme, souvent à juste titre. Ils associent sa personnalité à un maître référence intellectuelle, etc., etc. Et donc, il y a des raisons peut-être de ne pas aimer l'homme Aragon. Mais de là à oublier ses engagements, alors bon, je reviens pas sur le Rif, je reviens pas sur l'Éthiopie, mais c'est quand même très ancien. Hein, je veux dire, il a de ses premiers engagements politiques à la veille de sa mort, il n'a eu que des engagements anticolonialistes et internationalistes. Il a ensuite été dans les combats pour Angela Davis, contre la guerre du Vietnam. Bon, donc on peut lui reprocher plein de choses, mais l'oubli, on peut à la limite traiter par le mépris ses engagements, mais ne pas les ignorer. Or, ils sont ignorés. Ils étaient ignorés. J'espère que mon livre sera un début de, pas de réhabilitation, mais de mise au point.
Très curieusement, dans le mouvement libertaire, puisque tu es sur Radio Libertà 89.4, je te le rappelle, Alain Ruscio. D'accord. Aragon, ça peut avoir des sympathies, et Le Havre n'a pas. Et Le Havre a une position. Je ne sais pas si tu as déjà noté ça. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Pour plusieurs histoires, pour une attitude. Il y a un lyrisme chez Aragon, et puis il y a une flamboyance chez Aragon qui fait passer la pilule. Ça t'inspire l'affaire. Vite fait, parce qu'après, on va aller dans ton livre. L'affaire Calandra. Vite fait. Calandra est un poète. Breton et Le Havre sont à Prague dans les années 30. Et Calandra, les reçoit, il les promène dans Prague, et dans les années 50 peut-être, 50 comme ça, Calandra va être chopé par la police politique, il va être torturé, il va être mis en prison, etc. etc. Et là, le seul qui peut faire quelque chose, c'est Édouard, puisqu'il est en rapport avec le comité central. Et là, c'est marrant que tu ne connaisses pas cette histoire. Il y a une énorme manifestation, une suite de pétitions qui va se passer. Et Éluard, il y a Picasso, il y a René Char, il y a même Einstein qui a dû signer, etc. Et Éluard va refuser d'intervenir.
Ah oui, c'est
le genre de choses. C'est le genre de choses qui est très dur à faire passer.
Voilà. Oui, non, mais ça, j'en dis ce qu'on y a.
Je sais que tu as une sympathie. Tu as une sympathie, c'est Ho Chi Minh.
Oui.
Rien qu'à prononcer le véritable nom, vas-y.
Alors, son véritable nom, tu me mets au défi, là. Il s'appelait Nguyen That Thanh. Son nom de naissance. Et il a pris mille et un pseudonymes durant sa vie, ne serait-ce que parce qu'il était poursuivi par la police. Il a été connu en France sous le nom de Nguyen Ai Quoc. Et ensuite, en 42 seulement, il a pris son surnom.
Lui, c'est un intellectuel.
C'est un fils de mandarin moyen du centre du Vietnam, né en 1911. Il va devenir intellectuel de fait, mais contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'a jamais été enseignant, il n'a jamais été universitaire, il n'a jamais... Non, pas du tout.
Il a écrit un livre qui est de référence pourtant, non
il a écrit le procès de la colonisation française, republié.
C'est quasiment avant, avec celui de Césaire, les grands livres anticoloniaux.
Moi, je pense qu'il y a trois grands livres anticoloniaux dans l'histoire du XXe siècle, en tout cas, donc par ordre chronologique, Ho Chi Minh, enfin Nguyen Ai Quoc, le procès de la colonisation, Césaire, procès du colonialisme, et puis les damnés de la terre de Fanon. Donc voilà, les trois. Mais je dis au passage quand même que deux d'entre eux ont été écrits par des communistes. Il faut également penser à tout ça quand on fait l'histoire de ce courant politique.
Il y a des grands livres qui ont été écrits par des anarchistes sur le même sujet.
Mais bon, les grands livres de portée, disons, oui, bien sûr. Bon, Élisée Reclus, bien sûr. Je connais. Jean Grave, je connais, je pratique. Et d'ailleurs, un certain nombre de mes amis ont écrit. Il y a une biographie qui a été écrite par Marie-Joëlle Rupp sur Vigne d'Octon, par exemple, que tu parles ouvertement libertaire, mais enfin qui était dans cette mouvance-là, etc. Non, mais je ne dis pas qu'ils ont été. Je parle des trois grands livres marquants de l'histoire de l'édition, ce sont ceux-là.
Après 45, là, les problèmes sont tellement grands que l'EPC et d'autres ont laissé un peu tomber la question coloniale.
Oui, bien sûr, bien sûr. Après 1945, il y a eu, et je le dis d'ailleurs dans... Enfin, ça va même plus loin. Ça va même, il faut remonter même dans le temps, à l'époque du Front Populaire. À l'époque du Front Populaire, il va y avoir une sorte de modification, je dirais, de la hiérarchie. C'est-à-dire que jusqu'au Front Populaire, jusqu'aux années 34-35, justement l'histoire de l'Éthiopie, l'anticolonialisme est flamboyant au sein du PC, des milieux communistes et de ceux qui lui sont proches, dont par exemple Romain Rolland, par exemple, qui n'a jamais été communiste, mais qui est un compagnon de route. Et au moment du Front Populaire, il y a l'idée de dire que le danger fasciste est le plus important et que les revendications nationales décolonisées doivent être mises un petit peu au second plan, voire même oubliées provisoirement ou définitivement. Ça, à l'époque, ce n'est pas dit. Mais Aragon partage cette idée. Donc, Aragon, n'oublions pas, était également un grand journaliste. Et Aragon a dirigé le journal Ce Soir, qui est créé, je crois, en 37-38. Et il y a certains éditoriaux, ce qui prouve d'ailleurs ce qui va contre ce que tu me reprochais aimablement et fraternellement tout à fait au début, à savoir, je cite les textes d'Aragon, qui sont des textes de réformisme pur et simple des années de certains éditoriaux de Ce Soir d'avant 39.
Grand reproche de Breton par rapport à Vaillant et Aragon, c'est qu'on ne fait pas de journalisme.
Ah oui, ça. Et on ne fait pas de roman non plus.
Pas de roman, dit journaliste. Mais surtout journaliste, c'est-à-dire que les autres vont dire, faut de la grande gueule. Petite parenthèse aussi, ni Aragon, ni Breton, ils vont avoir des belles vies matérielles. Tous les deux. C'est pas des bohèmes, hein. C'est pas des bohèmes.
Alors, à certains moments, non. Dans l'entre-deux-guerres, bon, je suis pas capable de me rappeler exactement les. Mais à certains moments de l'entre-deux-guerres, Aragon et Elsa vont manger la vache enragée. Mais après, bien sûr, après 45, bon, il est devenu le poète national, celui de la Diane française, celui qui est la référence absolue, le maître du Comité national des écrivains, qui à l'origine est très très pluraliste.
Il va pas être très tendre avec les autres écrivains.
Ah non, non, non.
Ça va y aller au sécateur.
Oui, bien sûr. Surtout ceux qui vont pas partager ses convictions. Ça, c'est absolument évident.
Tout à l'heure, on disait qu'il a chargé la mule dans pas mal de secteurs, mais dans le phénomène national, il a été fort.
Oui,
il a été fort, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus que ça, on peut se demander. Mais tu sais qu'il y a un interview qui est sur Europe numéro 1 des années 75, un truc comme ça, où il se veut très provocateur. Je ne sais même pas si Elsa est encore vivante en 75, j'en sais rien.
Oh oui, alors,
il se veut très provocateur, il dit « Oui, moi je suis directeur des lettres françaises, je suis donc PDG. » Il dit « Oui, mais bien sûr que je suis resté surréaliste. » Et oui, voilà. Tout le monde saute dans l'air en disant t'as vu ce que tu as écrit, voilà, c'est pas du tout ça. Comme il nous reste très peu de temps, et je voudrais t'emmener sur deux terrains. C'est la dernière page de ton livre aux éditions Manifeste sans Est, quand tu dis « Mais le colonialisme à la papa était bel et bien mort, alors, et ses initiatives échappent à notre champ de recherche. » Petite A, rapidement, c'est quoi le colonialisme à la papa?
Alors, c'est un clin d'œil au lecteur cultivé dont tu es. C'est une expression de De Gaulle.
Oui.
C'est une expression de De Gaulle qui a un certain moment pour prendre ses distances avec les plus aveugles de la communauté européenne d'Algérie, qui voulait absolument garder l'Algérie française telle qu'elle était, alors que De Gaulle voulait garder l'Algérie française, mais en la réformant et en empiétant un peu sur les privilèges des pieds noirs. Bref, donc il emploie l'expression, comme il savait très bien le faire, à des interlocuteurs privés, en sachant très bien que ça serait immédiatement répercuté. Il dit « Le colonialisme à la papa, il est mort ». Mais bon, à la papa, ça veut dire quoi? Ça veut dire un petit peu à l'ancienne. Par contre, De Gaulle, évidemment, est bien conscient que les intérêts de la France post-coloniale doivent être préservés. C'est pas par hasard qu'il met tout de suite Focard auprès de lui. Enfin, il était déjà depuis longtemps, d'ailleurs. Et que Focard va être, dans le bureau attenant à celui de De Gaulle, le père de la France-Afrique. Donc, moi, je m'arrête au 62. Je m'arrête à la fin de la guerre d'Algérie parce que je considère qu'un nouveau cycle commence. Loin de moi l'idée de dire que l'Occident n'a pas encore des moyens de domination sur le reste du monde. Je suis Je partage un petit peu le thème de l'impérialisme. Mmh. Je pense que l'impérialisme occidental existe toujours et qu'il est encore agressif. Mais c'est une autre. Disons le colonialisme à la base, celui où il y avait forcément le drapeau sur la capitale, sur Rabat, sur Alger, mmh. sur Tunis, où il y avait les gendarmes français qui faisaient la loi, où il y avait les tribunaux français donnaient la, etc.
Mais l'anticolonialisme à la papa a changé aussi. Dans le livre, je ne sais pas si tu as lu ce livre d'Hélène Mokefi, là, tu l'as lu, non ? Alger, capitale de la Révolution. On voit les Black Panthers arriver, ils tirent dur sur la seringue, ils tirent dur sur le joint, ils sont armés jusqu'aux dents. C'est plus du tout la même lutte.
Moi, je dirais que c'est plutôt l'anti-impérialisme. Et là, l'anti-impérialisme,
c'est-à-dire, vas-y,
tout le monde.
Ouais.
Bah, pour moi, si tu veux, la domination occidentale sur le monde a pris plusieurs formes. Elle a pris, on peut dire, à partir en gros des grandes découvertes, à partir de la fin du 15e siècle, 16e siècle, début du 16e, l'Occident a commencé à mettre sa patte un petit peu sur l'ensemble des continents, sous la forme de la traite négrière, sous la forme de la colonisation, sous la forme du néocolonialisme et sous la forme de ce que Lénine avait appelé, là encore, je considère que le mot est toujours adéquat, même si les définitions léninistes est largement à revoir et à compléter, et que la forme actuelle de domination de l'Occident sur le monde s'appelle l'impérialisme. Face à l'impérialisme...
Ça, c'est pas besoin d'être léniniste pour penser une telle chose.
Hein. Je suis d'accord, c'est bien pour ça que tu me parle de l'anti-impérialisme. L'anti-impérialisme a aujourd'hui des composantes totalement qui sont loin d'être même majoritairement des gens qui se réclament du léninisme, évidemment.
J'avais posé la question à Françoise Vergès, oui. Savoir si ces gens qui avaient débarqué à Alger avec mitraillettes, joints et seringues avaient quelque chose à faire du discours sur le colonialisme. Elle m'avait dit non, ils n'en ont strictement rien à faire. Tu vois, les vieux textes anticoloniaux ont été très vite dépassés, tu vois. J'ai senti dans ton livre, une tentation à la fin ça va très vite, en 3-4 pages à peine, c'est le fou d'Elsa. Il y a comme si t'avais eu envie de nous dire que Aragon s'est tourné vers le... Tu vas en 2 minutes, ce que c'est que le fou d'Elsa? C'est toute la culture islamo...
Oui, bien sûr. Alors, le titre est trompeur. Bon, il faudrait faire une étude approfondie pour savoir. Bon, le fou d'Elsa, c'est un des personnages du... Alors, ce n'est pas un roman, c'est un recueil de poésie avec de longues passerelles.
C'est un pavé, hein.
Oui, c'est un pavé énorme. Alors, Aragon dit lui-même que il était totalement ignorant, comme l'immense majorité des Français et l'immense majorité des intellectuels, sauf les spécialistes, sauf les érudits, il était totalement ignorant de ce qu'il appelle la culture arabo-musulmane. Et que c'est la guerre d'Algérie, l'insurrection algérienne, qui a attiré son attention sur ce pan immense de l'histoire de l'humanité qu'il ignorait. Et donc, il a commencé à partir de 1956... à penser à un livre qui serait une sorte d'intervention, je dirais, indirectement politique. Directement politique, c'est facile, il avait sa fonction. Je cite dans le livre les nombreux éditoriaux qu'il signait ou qu'il parrainait dans les lettres françaises. Et, c'est lui qui le premier a publié les textes de Kateb Yassine, de Mohamed Dib.
Mohamed Dib aussi, oui.
C'est pas rien. Mais bon, revenons au fou d'Elsa. Donc le fou d'Elsa, il a trouvé un biais, qui est celui donc des derniers jours du royaume de Grenade, donc la fin de la Reconquista catholique, au moment où donc la présence musulmane en Espagne va cesser. Et donc il fait une description absolument magnifique de la magnificence de cette civilisation.
C'est à Grenade.
À Grenade. Oui. À Grenade et d'une façon générale dans l'Espagne musulmane.
Dans l'Andalousie
en particulier, hein, bien sûr, qui était le dernier réduit, mais qui était réduit et puissant. Et donc voilà, c'est l'idée qu'il a eue. Et tous les tous les témoins qui ont pu approcher Aragon à cette époque disent qu'ils ont été époustouflés par la façon dont il a incurgité en quelques, ça correspond un peu à ce que tu disais sur sa mémoire phénoménale. Il a incurgité pendant en quelques années, très vite, puisque le livre a été publié en 63 et fini en 62 au moment de la guerre d'Algérie, la fin de la guerre d'Algérie. Il a lu tout ce qui était imaginable. D'ailleurs, lorsqu'il est décédé, on a retrouvé dans sa bibliothèque des centaines de livres. Lévy Provençal, qui était un très grand érudit, le dit. Jacques Berck dit que Aragon venait à son séminaire et Jacques Berck disait qu'il avait été vraiment très impressionné par la capacité de... Et donc, c'est sa façon à lui, alors très indirecte, évidemment, et très intellectuelle, de dire, mais vous, pauvres occidentaux qui méprisez ce monde arabo-musulman, vous ignorez donc combien ce monde vous a dominé et combien ce monde vous a transmis une civilisation absolument magnifique dont vous n'êtes même pas capable d'avoir l'idée.
Alors ce soir, tu vas téléphoner à Victor Blanc, édition Manifeste, oui. Et tu vas lui dire, tu vas nous faire 150 pages sur le foot Elsa.
ça sera sans doute pas moi. Bon, j'ajoute quand même que moi, je suis pas un historien de la littérature.
Hein. Oui, mais c'est ça qui m'a plu. Et qui m'a étonné dans ton livre, c'est que tu as sérieusement envie de le faire, de retracer l'histoire du...
Il y a quand même... Ça, attends, ne me mens pas, je l'ai lu, je l'ai lu.
Jamais, jamais, jamais. Donc, Aragon et la question coloniale, hein, c'est l'édition Manifeste, c'était un plaisir, camarade léniniste. J'ai déjà un camarade trotsko-maurassien, tu vois. Trotsko, c'est dur à faire. Donc, camarade léniniste, c'était un plaisir. Et puis, j'espère qu'on va se voir, ce sera pour début de l'année, peut-être.
Le nouveau livre devrait paraître premier trimestre 2023, donc...
Ça sera quoi ça,
c'est... Alors, c'est un livre, je change, mais j'aime bien voyager un peu. C'est un livre sur la ville de Marseille, enfin, pour être plus précis, la Provence, pas seulement Marseille, la Provence et l'Indochine. Donc, c'est les liens très, très anciens, et par définition, bien sûr, le port, entre la ville de Marseille, la Provence... Et l'Indochine, que ce soit sous forme des Vietnamiens en France ou sous forme des Français en Indochine, les relations humaines, les artistes, les intellectuels, et puis les ouvriers, les dockers, et les administrateurs coloniaux. Voilà.
Ben, j'espère qu'on pourra se voir.
Et
puis on reprendra ce dialogue.
D'accord.
Et merci Monique, c'était un plaisir encore
merci,
une
Monique.
Fois.
Il y a des choses étranges qu'on nous en dit pas un mot, des machins qui les dérangent qu'on voit pas dans les journaux, et des histoires incroyables qu'on voit pas à la télé, des chimiques invraisemblables personne n'y croirait jamais. Mais je crois qu'on nous écoute, tais-toi, fais pas de baroupe, on fonce bien ta moumoute, les gens sont devenus ouf, y a quelqu'un qui nous espionne. Bouche cousue et motus, faut pas croire que je déconne, mais je n'en dirai pas plus. Y a des cas catastrophiques que même les écolos, pour pas semer la panique, ils parlent pas dans les journaux. Et des histoires dégueulasses qu'on peut pas imaginer, des trucs même au Texas. Personne n'y croirait jamais, mais je crois qu'on nous écoute. Tais-toi, fais pas de barouf, enfonce bien ta moumoute. Les gens sont devenus ouf, y'a quelqu'un qui nous espionne. Bouche cousue et motus, faut pas croire que je déconne, mais je n'en dirai pas plus. Il y a des bidules horribles qui donnent la chair de poule, des machins épouvantibles, il y a vraiment plein de maboules, des déviations sexuelles que même les gynécos savent pas comment ça s'appelle, il y a vraiment plein de dingos. Mais je crois qu'on nous écoute, tais-toi, fais pas de barouf, enfonce bien ta moumoute, les gens sont devenus ouf, y'a quelqu'un qui nous espionne. Bouche cousue et motus, faut pas croire que je déconne, mais je n'en dirai pas plus. Y'a quelqu'un qui nous espionne, bouche cousue et motus.
pour pas croire que je déconne, mais je n'en dirai pas plus. J'ai flingué ce bof de ma Kalachnikov au bar de Tchernobyl. J'ai largué mon missile, car au bord de la Dour, l'atome comme l'amour, faut que ça pète un jour. Rouski, Rouskov, Bolcho, Bolcho, popopo. Русский, Русков, водка, водка, Лакников. Русский, Русков, больше, больше, попопов. Русский, Русков, водка, водка, Лакников. Русский, Русков, больше, больше, попопов. Русский, Русков. Лакников.
Нержам, 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 нержамуш. Нержам, нержамуш, нержам, нержамуш, шельпеда. Нержам, нержамуш, нержам, 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 нержамуш. Нержам, нержамуш, нержам, нержамуш, шельпеда.
Je digère pas les frites, je sais pas où j'habite. Te raconte pas minus tout ce qu'il y a comme cactus in the désert. Et moi j'erre in the désert, fringué en légionnaire. Ah! J'm'en d'air in the désert. Tiens, voilà l'auto. autobus, là derrière les lotus, il est plein d'hommes grenouilles, je te dis pas comme ça grouille dans le désert. Tiens, dit-on, qui c'est ce blaire? On dirait mon beau-frère in the désert. Tiens, c'est bientôt l'heure de l'apéro, oh 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 oh, je rêve de glaçons dans mon pernod, oh 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 oh, on se croirait au Colorado, oh 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 oh, putain, je meurs, sois pas un bistrot, oh 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 oh. C'est vraiment le mec nul, la dernière des crapules, mon beauf avec Germaine, ah, ça me fout la haine in the désert. Ouais, c'est bien le roi des blaires, je vomis mon beau-frère in the désert. Voilà les contractuels avec des portes, jartel qui a poil en moto, gratte des crottes de chameau in the désert. In the désert, appelez l'infirmière, crise de nerf, 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 crise de nerf, 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 crise de nerf in the désert. Y'a des inventeurs, des trucs à bobine, qui ont coûté la sueur, turbins et turbines, à voile à vapeur et de la vaseline pour remplacer le beurre. J'ai même vu machine avec ma belle-sœur. Ma belle-sœur est végétarienne et mon beau-frère qui est à rien. Aime ma cousine Germaine et je me dis ça rime à rien. Au concours l'épine, ça c'était pas tant. Y a une machine à noircir les dents. Lessive aux enzymes, pourra-t-on laveur, des swings des bottines, pourra-t-on coiffeur, et même une turbine, pour vibro ma sœur qui a toujours été zen, tous les matins fait son yoga, dans son mât au fond des Cévennes. Et je me dis, ça rime à quoi? Au concours l'épine, j'ai trouvé l'amour. C'est une rouquine, pas vraiment glamour. Elle est admirable, élastique et tout. Ma poupée gonflable, je suis fou de vous. Ma poupée gonflable, je suis fou de vous.
petit papier de chocolat. La lune dont le ciel étire sa géométrie falbala, verte d'absinthe et de saphir. Elle était ici, la voilà, au fond de mon verre qui se mire, dans les guirlandes de gala, de l'ivresse qui me déchire. Petit papier de chocolat, l'alcool dans la nuit me chavire, tout en haut du Fujiyama, dans le ciel bleu de mes délires, le jour se lève et moi, à l'écluse de mes désirs, je lève mon verre et je bois, couché sous le pont des soupirs, derrière la porte des lilas, au vent mauvais s'évanouir, petit papier de chocolat, c'est ma jeunesse qui se tire.
De Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, malheureusement, Claire Ozias est décédée mardi de la semaine dernière, donc ça fait un petit peu moins d'une semaine là, et nous lui rendons hommage en rediffusant une émission que nous avions faite avec elle. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Voilà le début d'une nouvelle émission Trou Noir. Et pour le Trou Noir du jour, nous vous proposons une interview de Claire Ozias, réalisée il y a peu de temps lors d'un passage qu'elle effectuait en France, au sujet des Roms.
Bonjour, donc dans les studios, Serge au micro, Monique, notre technicienne préférée, adorée à la technique.
Bonjour.
Comme d'habitude. Et puis Claire Ozias, on a eu beaucoup de chance d'avoir, puisqu'elle ne passe pas très très souvent à Paris ou même en France, je crois. Et comme le sujet qu'on voulait traiter est un sujet à la fois d'actualité et historique, qui est un peu la répression contre les Roms, ou l'utilisation qu'on fait des Roms pour faire passer un certain nombre de choses contre les étrangers. Ou, enfin bon, ça, on va avoir l'occasion d'en parler. Donc on va essayer de faire une émission qui va traiter un petit peu de ce qui est de l'actualité autour de ce qu'on fait pas, ce qu'on met sur le dos des Roms et ce que M. Sarkozy et d'autres utilisent en ce moment. Et puis, dans une deuxième partie, on essaiera d'apporter un certain nombre d'éléments d'information sur un peuple ou des peuples, peut-être, je veux dire, des peuples qui sont à la fois connus dans une espèce de souvent de projection très schématique et en même temps pas très connus, quoi, à part des gens comme Claire qui a eu l'occasion de faire plusieurs livres, enfin, peut-être tu vas en parler, sur les Roms. Donc on est très content de l'avoir aujourd'hui. Et donc, je vais lui passer la parole. Donc, Claire Ozias, qui es-tu? Je ne dis pas où vas-tu, mais
bonjour.
Qui es-tu?
Merci de m'avoir invité avec vous. Qui je suis, une personne, entre autres choses, militante anarchiste. Et pour l'instant, historienne. Et qui travaille avec les Roms. Et sur les questions qui sont liées à ces affaires-là, depuis la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire depuis 20 ans. Voilà.
Et je voulais te demander, tiens, puisque c'est quelque chose, j'avais pas eu l'occasion, je crois, de te rencontrer, comment tu... Parce que, bon, je sais que tu as écrit plusieurs livres, effectivement, dont un récent, je crois, en 2009.
Tsigane, Rome, voyageur, 2009. Voilà.